Et 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir dans ce hors-série Teachers. Pourquoi hors-série? Eh bien, tout simplement parce que, comme vous le savez, si vous suivez notre actualité, normalement, nous aurions dû nous revoir pour le numéro 100. Et comme le numéro 100 a un petit goût particulier, on va dire, on avait envie ce soir de faire un hors-série, je vais y arriver, les événements actuels qui nous touchent directement, nous professionnels de l'éducation, puisque nous sommes passés, comme vous le savez tous, depuis hier en mode de télé-enseignement. Nous allons aborder ça ce soir avec nos compères, et la bonne nouvelle, c'est que par contre, nous sommes tous les quatre ce soir avec les deux Seb. Salut Jeff, ça va ?
Ça va, impeccable, ça va, très très bien, à part l'actualité qui est un peu chaude en ce moment, avec pas mal de chamboulements, donc on a voulu... On a voulu en tout cas ce soir de faire une émission un peu hors série, enseignement à distance, pour voir un petit peu des trucs et astuces, un peu d'outils, un peu de façon de faire, un peu tout ce qu'on pouvait apporter en tout cas dans une émission un peu dans le vif du sujet quoi. Voilà. Ça va les
Seb ? Bon, nos Seb, comment ça va ?
Ça va, merci.
Ouais, pareil, écoute-moi, ça va, dans la cave. On essaie de se répartir les différents niveaux entre les filles, ma femme et moi.
Effectivement, est-ce que t'es confiné aussi aux États-Unis là ? Vous êtes tous loqués chez vous ou pas encore ?
Alors, moi je suis confiné jusqu'au 16, ma femme aussi, mes filles c'est moins clair, c'est jusque mardi, et après on verra.
Ok.
Eh bien, ma foi, oui, c'est des événements particuliers qui interrogent bien sûr nos pratiques, et on va donc essayer d'échanger sur ce point ce soir, puisque, voilà, autant Jeff et moi, en tout cas, sommes, en plus d'être enseignants, sommes, on va dire, pour résumer, des référents numériques sous plein de casquettes différentes qui font qu'on est plutôt sollicité dans ce genre de cas. Donc là, il a fallu réagir rapidement. Jeff, encore plus que moi, clairement. Hein. On trouve en fait que cette mise en place de téléenseignement à cette vitesse, surtout, pose un certain nombre de questions, puisque, je ne sais pas vous, les gars, mais moi, depuis vendredi, j'ai des boîtes e-mails qui explosent avec tout un tas d'informations parfois contraires. Je ne parle pas de politique, là, hein, mais qui nous viennent concernant ce que ça veut dire, le téléenseignement. Donc, je pense que dans un premier temps, on pourrait peut-être un peu échanger là-dessus sur téléenseigner, ça veut dire quoi, en fait, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ben... Ouais, tout à fait. Enfin, moi, je voulais en fait partir d'une petite infographie que la Dame de Lyon a proposé là-dessus, sur justement faire un petit point sur qu'est-ce que c'est la classe à distance. Que la classe en distance, hein, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Hein. La classe à distance, il suffit pas de balancer un PDF de 25 pages avec des exercices et un cours et puis voilà. L'enseignement à distance, c'est un peu différent. J'en ai fait quand même quelques-unes. Et vous aussi, je pense, envers les enseignants. Alors pas envers les élèves, c'est vrai. Hein. C'est vrai que venir vers les élèves, c'est un peu nouveau. Mais donc pour moi, il suffit pas, voilà, de balancer un vulgaire gros PDF et puis on est tranquille. Si je prends cette petite infographie que la Dame de Lyon a fait, elle a classé dans faire la classe à distance en 5 catégories: planifier et adapter le parcours de l'élève, l'animer une classe virtuelle, c'est-à-dire en live, faire la classe à distance, garder le contact avec les élèves et évaluer. C'est comme ça que ça a été fait, cette infographie. Vous la retrouverez en tout cas sur le site de dan.clyon.fr. Dans planifier, quand on parle de planifier, ben c'est déjà de mettre un plan de travail qui va être complètement différent de la classe. Garder l'emploi du temps actuel, je trouve, c'est un petit peu... souvent, les établissements ont décidé de faire ça. C'est un petit peu compliqué. Une heure de cours en réel, pour moi, ne peut pas être une heure de cours en distanciel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît très compliqué. Ou faire une classe virtuelle, une visio pendant une heure, c'est très compliqué. Donc quand on part de planifier, il y a deux temps déjà. Il y a le temps synchrone, comme je vous disais, sur les classes virtuelles, sur la visio ou un chat par exemple. Et ce qu'on appelle le temps asynchrone, qui est le travail en autonomie, la consultation de ressources, des évaluations, etc. Donc on a vraiment deux temps. Ensuite, on a cette partie, donc une fois qu'on a bien planifié ce qu'on veut faire faire aux élèves, est-ce qu'on lui fait des leçons, c'est un du travail d'autonomie, des rendus de devoir, un moment où on va aider l'élève. Il faut vraiment penser ce temps de classe à distance complètement différent du temps en présentiel. Adapter ses exigences, moi ça me semble très important, les objectifs attendus, c'est vraiment un contexte complètement différent. C'est déjà le temps, je sais pas si vous avez fait une visio, on l'a vu ce soir, on a mis deux plombes pour que ça fonctionne techniquement, donc ça il faut y penser. Hein, si vous avez prévu un quart d'heure de live avec des élèves, vous saurez que dans l'un quart d'heure, il y aura peut-être que 5 minutes qui seront vraiment effectives. Avec des problèmes techniques, des problèmes de connexion, etc. etc.
Ça diminue avec le temps. Hein.
C'est vrai.
C'est-à-dire que plus tu en fais, moins ces problèmes de réglage interviennent.
Il y a une petite routine qui rentre.
On est à la 100e émission, ça roule tout seul.
Tout à fait. Bien structurer en tout cas son espace de travail, son espace numérique. Si on a la chance, nous on a une particularité en France, c'est d'avoir des ENT, en tout cas dans le second degré, de bien adapter. Oui, dis-moi.
Ouais, je te dirais dans le premier degré aussi, mais on y revient un peu plus tard.
Ouais, ça commence, mais c'est encore, c'est pas encore de rentrer dans les mœurs. Mais en tout cas, c'est structurer bien la plateforme où on va qui va être l'entrée de tout cet enseignement à distance. Première chose. Ensuite, on a essayé de dire bien de utiliser les potentialités du numérique pour enseigner à distance. Oui, on va avoir de la vidéo et de l'audio, des quiz, etc., de mettre de l'interaction. Et prendre en compte la charge de travail globale de l'élève. Balancer un PDF de 10 pages avec un cours et des exercices, ça va marcher avec certains élèves ou d'ailleurs peut-être la famille sera derrière. Ne pas oublier, j'ai vu passer un tweet aujourd'hui, ne pas oublier que les parents dans ces cas-là sont souvent en télétravail, ont souvent d'autres enfants. Donc vous imaginez la charge de travail pour le parent d'ailleurs s'il doit expliquer tout le cours donné par l'enseignant. Donc il faut vraiment adapter ça. Utiliser des documents formalisables. Enfin là j'ai eu un cas aujourd'hui d'une collègue qui a balancé un docx par le NT. La plupart des élèves ont un smartphone, donc je sais pas si vous avez ouvert un docx sur smartphone. Voilà, ouais. C'est compliqué. Un PDF, un MP3, un MP4, voilà. Des vidéos en streaming, ça reste quand même la chose la plus courte. On a essayé de dire aussi que c'est pas parce que c'est l'enseignement à distance que c'est 4 heures dans la journée devant les écrans, quoi. On peut veiller à un usage raisonné des ressources numériques. Hein. On peut faire des vidéos très courtes, de 3-5 minutes maximum. Je pense qu'il ne faut pas en faire bien plus. Et de favoriser un temps de travail sur les manuels papier et sur le papier, d'accord ? Et de possibilité de rendre des travaux papier, numérisés. Hein, on a essayé de... peut-être, je parlerai tout à l'heure d'une petite application pour scanner, par exemple, le papier. Voilà, si je voulais déjà rebondir sur cette première approche.
T'as dit pas mal de choses. Juste avant de laisser la parole au Seb pour compléter un peu tout ce que tu as dit. Voilà, le constat qui a été fait depuis vendredi, et ça part toujours d'une très bonne intention des collègues, ça a été en fait de tout de suite se précipiter pour mettre des choses sur les ENT à disposition des gamins, avec un effet qui peut être pervers, puisque la surinformation que les gamins les plus volontaires vont recevoir va les entraîner dans une surcharge d'informations donc cognitives qui font qu'ils risquent de ne rien faire du tout. Je comprends que les collègues aient besoin de se sentir travailler en fait, hein, tout bêtement, surtout dans une période anxiogène comme on est en train de vivre, où voilà, on a l'impression de se raccrocher à une certaine réalité quotidienne. Mais n'oublions pas que rien ne presse, vraiment rien ne presse. On n'est qu'au premier jour d'une période qui risque de durer très longtemps. Et si d'entrée de jeu, on envoie un signal aux élèves en disant « Regardez ce qui va se passer », on va complètement dans le mur. Pour donner une anecdote, hein, on a tous des amis qui ont des enfants dans d'autres collèges avec qui on échange, et j'ai pu recevoir des captures d'écran de ce que les gamins avaient à faire aujourd'hui avec des rendus parfois du matin pour l'après-midi. C'est juste n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Parce qu'en plus, on sait très bien que les élèves peuvent pas tous faire. Tout le monde n'est pas équipé de la même manière. Ne l'oublions pas. Aujourd'hui, dans les familles, L'ordinateur n'est pas ce qu'on retrouve le plus, hein. On voit de la tablette, du téléphone, mais certainement pas des ordinateurs. Et parfois, quand il y a un ordinateur, il n'y a pas qu'un enfant, hein, et on leur demande à tous les mêmes choses. Donc vraiment, avant même toute considération technique et pédagogique, enfin technique d'abord, une pédagogie de distance, elle va commencer par, ce que tu l'as dit Jeff, un dosage vraiment léger, et on aura toute l'occasion, tout le temps de monter en puissance, si je puis dire, si les élèves adhèrent. Voilà. Les Seb, vous voulez rebondir là-dessus ?
Non, ouais, je pense que tu as dit un truc. Pardon, vas-y Seb.
Ouais, je vais peut-être y aller parce que justement, toi, ta situation, ça va être encore différente. Moi, ça doit, donc j'enseigne toujours à des adultes, mais j'ai aussi des filles qui sont à la maison, mais dans un environnement privilégié, puisque l'école a pu demander avant de fermer. Ils ont été très, très proactifs. Hein. Une semaine avant la fermeture, ils ont commencé à planifier et à avertir. Et donc, par exemple, chaque élève qui n'avait pas d'ordinateur a pu remplir un petit formulaire pour recevoir un Chromebook à prêter pendant cette période-là. Ils sont déjà tous sous Google Classroom. Et moi, dans mon environnement de travail, on a déjà tous nos cours sur Moodle, et donc avec tous les documents. Donc, il n'y a pas cette urgence comme ça, et même comme ça, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué, mais effectivement, comme dit Guillaume, il faut prendre le temps, il ne faut pas se précipiter non plus, et même si on sent l'urgence un petit peu de trop lancer, il faut laisser expérimenter, et je dirais que peut-être aussi il faut laisser le temps aux familles de s'adapter. Guillaume parlait des écrans qui n'étaient pas là pour tout le monde, du télétravail, de plusieurs enfants, et tout ça c'est vrai. Et par exemple, ce que ma femme a fait, c'est un planning pendant cette période, avec finalement, dans la journée, 4 heures de travail scolaire, et pas plus. En misant sur le fait que ce serait du travail qui serait peut-être un petit peu plus intensif et mieux rentabilisé qu'à l'école, puisque à l'école il y a quand même des temps de pause dans un cours où on attend un peu que tout le monde ait fini, etc. Toutes ces choses-là. Donc il faut essayer aussi de planifier sa journée et de pas se dire de toute façon de 8h à 16h c'est tu te mets devant ton écran et tu fais tes exercices, parce que ça marchera pas, surtout si ça dure plus de 2 semaines, quoi. Le gamin va devenir taré, quoi, et ce peu importe l'âge, quoi. Donc c'est compliqué, et il faut partir aussi avec le constat que nos cours n'étaient pas faits pour ça. Ils n'étaient pas faits pour être enseignés en ligne. Et d'un coup, on les fait passer comme ça en ligne.
Tout à fait.
Et là, il faut être prudent. Je pense que tant pis, il faut peut-être revoir les objectifs à la baisse, faire d'autres choses. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Il y a vraiment une différence entre ce que Jeff mentionnait, qui est quand on prépare un cours pour qu'il soit fait en ligne, et puis là, une adaptation dans l'urgence, où il faut revoir un peu son niveau d'exigence, je pense.
Juste pour, avant de te laisser la parole, Seb, justement pour rebondir là-dessus, c'est exactement ça. C'est que nous, on a tous déjà une expérience en fait d'enseignement à distance, comme tu l'as dit Jeff au début, parce qu'on travaille déjà un peu comme ça avec les ENT en tant que complément du présentiel. Là, on se retrouve face à des situations où on a des collègues qui n'ont jamais adhéré à cela, ou très peu, ou qui n'ont jamais vu l'utilité, et qui partent obligation de service ou volonté de le faire quand même par souci professionnel, se retrouve à tout vouloir découvrir d'un coup et tombe dans des panneaux un peu simples pour lesquels que nous on a peut-être déjà expérimenté, donc qu'on évite maintenant. Et c'est exactement ce que tu disais Jeff avec l'exemple du PDF ou du parce qu'à l'inverse, dans mon bahut, on a aussi fait des documents en papier, quoi, en fait, en disant on va aussi mettre à disposition du bon vieux papier avant que tout le monde parte là, pour que les gamins puissent repartir avec un petit fascicule, parce que finalement, en plus, on sait qu'aujourd'hui la pollution numérique, elle est plus importante que la pollution du papier, et que on peut aussi envisager ça, que l'un n'empêche pas l'autre. Donc voilà, il faut c'est deux choses différentes. Il y a la situation d'urgence et ce qu'on pourrait faire avec du temps. Donc je me dis que tant qu'à faire, on peut aussi tirer parti de cette expérience-là, parce que on n'aurait peut-être jamais eu à faire ça si on n'avait pas eu cette année histoire. Mm-hmm. Donc c'est bien, hein, mais autant en tirer quelques avantages, et en se disant quand on en sera sorti, finalement, finalement beaucoup de gens ont retesté des choses qu'on demande à faire tout le temps, mais que peu le font. Voilà.
Ouais, donc moi, pour rester sur l'idée qu'on est dans une situation d'urgence, j'ai envie de vous dire ce qui a été mon fil Twitter toute la journée. C'est les différents ENT, parce qu'on en parlait tout à l'heure des ENT du primaire, il n'y en a pas 150 000, hein, mais les trois principaux ont lâché aujourd'hui quasiment. Donc bah pourquoi? Bah c'est pas compliqué, comme tu l'as dit, Guillaume, ce sont des compléments et on leur a demandé aujourd'hui d'être nos remplaçants entre guillemets, nos paroles permanentes. Donc forcément, ils ont un peu explosé sous la tâche. Et donc on va être obligé d'attendre de toute manière. On va être obligé d'attendre. Moi, pour vous donner une idée, aujourd'hui j'avais un message à faire passer aux familles, justement. Un livret à imprimer, parce que j'ai pas pu le faire avant. Donc, c'était tout ce que j'avais d'essentiel à faire. Ça m'a pris une demi-heure pour pouvoir le faire passer sur le NT, sur Edu Cartable. Donc, ça a été compliqué, mais c'est comme ça. Il va falloir maintenant qu'on prenne notre temps. Et c'est sûr qu'on a tous envie de remplir ce temps qui est là, mais là, le fait est que dans les familles, c'est pas une classe. Voilà. La famille n'est pas une classe, et les enseignements vont prendre du temps à trouver leur place là-dedans, s'ils en trouvent, parce que ne l'auront pas, et dans des familles, ils n'auront pas la place pour l'école à la maison. Donc, ouais, première urgence pour moi, ça va être d'attendre.
Très bien. Si je reprends un petit peu la suite de cette infographie, il y a un truc que je trouve assez intéressant, c'est garder le contact avec les élèves. Je pense que déjà, si la période dure en plus, hein, d'enseignement à distance, la chose moi je pense une des choses les plus importantes, c'est vraiment de garder ce contact avec l'école, donc avec les élèves, de pas s'éparpiller sur les différents services de messagerie. On garde sur un seul service de messagerie, hein, c'est ce qui est donné. Et en tout cas, je pense qu'il est important de communiquer très régulièrement avec ses élèves pour maintenir le lien, et rester aussi, c'est ce qui est marqué dans cette infographie, dans une dynamique d'apprentissage. Mais de bien définir, je pense, les modalités de communication, parce qu'on peut partir un peu dans tous les sens. Donc je pense que c'est une des choses principales, en tout cas, c'est vraiment de garder ce lien entre les élèves et l'école.
Je crois qu'on va aborder ça tout de suite après, là, dans les différents outils qui permettent de garder les contacts et comment communiquer. Ce qui est essentiel, on peut donner un conseil, s'il y a des collègues qui nous écoutent et qui ne savent pas trop, voilà, c'est quand même assez rapidement de choisir un canal de communication, parce qu'on peut tous communiquer, et surtout ne pas les multiplier entre les collègues, puisque voilà,
C'est
on sait,
ça.
tous les outils aujourd'hui, quasi tous les outils qu'on propose, ont en soi des canaux de communication, de chat, de messagerie interne, ça. Donc garder celle de l'ENT, il finira par remarcher. Je pense qu'aujourd'hui, tous les providers, tous les fournisseurs de l'ENT ont été pris au piège de la surconnexion. On l'a tous vécu. Ça va aller mieux. Déjà ce soir, en fin d'après-midi, là, ça allait mieux. On va pas se leurrer non plus, hein. Tous les parents ce matin qui étaient confinés, ils ont eu qu'une peur, c'est que leur gamin passe leur matinée sur Fortnite. Donc plutôt que de faire ça tout de suite, c'est va vite te connecter sur le truc. Et voilà. Mais je pense que ça, dans quelques jours. On va pas se leurrer, les gamins qui travaillaient pas beaucoup, ils vont pas plus travailler comme des dingues ici, quoi. Hein, donc ça risque de se réguler un petit peu.
Voilà, et pour ceux qui n'ont pas de NT, hein, choisissez un seul canal de communication aussi, hein, les multipliez pas. Voilà.
Ouais, tout à fait le même. Et puis donner des rendez-vous. On parlera certainement du synchrone un peu plus tard, mais pour vous parler de moi et de mon exemple personnel, voilà, j'ai donné du travail sur une semaine, mais j'attends un retour. Par messagerie, quelque chose de très simple dans un premier temps, uniquement vendredi. C'est-à-dire que je leur ai proposé un petit programme en leur disant, ben, on va imaginer que lundi après-midi, vous ferez ça pendant certain temps. On va imaginer que mercredi, voilà, un petit peu comme quand ils ont cours, les matières normales. Mais je vais pas m'amuser tout de suite à avoir du retour. Et il y a beaucoup, beaucoup de collègues qui ont pensé ça, qui se voyaient déjà à faire, pour eux, téléenseignement égale classe virtuelle synchrone au même moment, en fait. Et d'ailleurs, les premiers messages, vendredi que j'ai reçus de collègues affolés pour savoir comment faire ça, ils avaient cherché par eux-mêmes. Donc, c'est vraiment des gens qui, je vous racontais ça à Jeff ce matin, qui d'habitude, vous leur demandez une animation PowerPoint, pour eux, c'est le 23e siècle, et qui là, m'écrivait en me parlant de Discord, quoi, en me disant j'ai regardé sur Internet, Discord qui est donc le serveur de VoIP pour gamers, enfin quelque chose qui est quand même plutôt destiné à une élite, enfin pas une élite, mais plutôt
Non.
dans un monde assez.
Non.
Pas une élite, mais voilà. mais voilà, une niche, on va dire. Donc là, c'était assez, assez drôle. Ça veut dire qu'il y a quand même eu une recherche de la part de ses collègues, enfin, qui ont vu et qui se retrouvent sur des machins complètement. On n'en parle même pas, quoi. Voilà, donc ce que je voulais dire pour le moment.
D'ailleurs, ouais, là, je pense qu'au fil de l'émission, on va donner peut-être quelques outils pour essayer de pallier au présentiel. Mais une espèce de disclaimer pour moi, ce serait de. Mise en garde, un préambule, ce serait de dire essayez d'utiliser un minimum de nouveaux outils. Allez vraiment vers un nouvel outil si c'est pour une fonction qui vous est indispensable, mais sinon, privilégiez ce que vous connaissez déjà, parce que vous aurez bien assez de boulot en tant que prof pour essayer de contacter vos étudiants, de rester en contact avec vos élèves et de leur fournir des exercices sans en plus passer du temps à essayer de découvrir des nouveaux outils qui peuvent être complexes. Donc si vous ne connaissez pas Moodle, c'est peut-être pas le moment de se pencher sur comment l'installer sur un serveur, parce que là vous allez perdre énormément de temps pour un résultat qui sera très médiocre. Faites au plus simple et ouais. On sait ce sera du bricolage, mais au
Tout
moins vous aurez passé du temps à bricoler pour vos élèves et pas pour essayer d'établir un truc parfait qui sera
exactement. Et si ça vous plaît de travailler comme ça, vous aurez tout le temps plus tard d'imaginer de développer des ENT beaucoup plus développés comme Moodle que tu as évoqué, quoi.
Ok, je reprends. Si personne.
Vas-y.
Donc troisième onglet de cette animation, c'est faire la classe à distance, où j'ai trouvé que c'était assez intéressant de donner des exemples, par exemple de plans de travail pour organiser et structurer en tout cas ces apprentissages en alternant apport de connaissances, exercices d'application, exercices d'évaluation, échange, suivi des apprentissages, etc. Donc il y a deux petits exemples que je trouve assez sympas, d'exemples par exemple de temps 1, on ferait un temps synchrone avec une petite classe virtuelle de 10 minutes où on présente le thème, tu vois, des ressources, des consignes, pas plus, hein, 10 minutes, déjà le temps que se connecte, etc. On aurait un temps 2 qui serait plutôt asynchrone, c'est-à-dire qu'un travail des élèves en autonomie, selon les modalités qui seraient définies, hein, donc avec un espace d'échange, par exemple, hein, pour utiliser la messagerie, si on a un forum, il y a pas mal de gens qui ont mis aussi des forums en place. Un temps 3, on pourrait faire un petit temps d'évaluation. Alors soit un petit quiz avec les outils que vous connaissez dans votre ENT si vous en avez, ou un autre système de quiz. Et puis on finirait par un temps 4, une petite classe virtuelle de 10 minutes pour faire un petit bilan, une petite remédiation. Donc évidemment en temps synchrone c'est assez court, hein. On est vraiment sur des choses très courtes avec pas mal de travail en autonomie. Deuxième exemple que je trouve aussi intéressant, c'est un petit peu différent, c'est qu'on aurait un temps 1... où on serait complètement en asynchrone, un diffusion du plan de travail, donc dans votre ENT ou autre, en tout cas votre outil, comme ils appellent ça, centralisateur, et mise à disposition des ressources. On aurait un temps 2 où on aurait les travails des élèves en autonomie selon les modalités suivies, donc avec un espace d'échange toujours. Un temps 3 où on aura un petit temps d'évaluation où on pourrait le faire synchrone cette fois-ci avec des outils synchrones d'évaluation et des petits quiz, il y a pas mal de classes virtuelles qui permettent de faire ça. Et un temps 4 avec 300 du professeur sur l'activité globale qu'on pourrait faire soit en asynchrone avec une petite vidéo faite par l'enseignant ou non, ou en audio, de privilégier l'audio si on privilégie rarement l'audio, mais pourquoi pas donner des consignes en audio et des petites choses comme ça. Voilà, c'est deux exemples possibles de mise en place de plans où sans arrêt on change les modalités, où sans arrêt on fait des choses très courtes en synchrone ou asynchrone, on repense complètement, en tout cas je pense, son enseignement qu'on l'on fait en présentiel.
Alors ça c'est pas mal du tout, et je dirais que peut-être le bon plan ce serait de déjà regarder ce qu'on avait prévu de faire en cours, et de voir ce qu'on peut donner à distance, de voir si on est obligé de faire une session en synchrone pour des questions-réponses, etc. Et puis voir si on peut décaler les exercices aussi. Et ce serait déjà un bon point de départ, c'est-à-dire partir de ce qu'on avait prévu et de voir comment ils pourraient le faire seuls, où ils sont obligés de demander à leurs copains ou aux profs, et enfin ce qu'ils pourraient réinvestir encore une fois tout seul pour s'entraîner. Et ça pourrait déjà orienter un peu sur le choix des modalités, je pense.
Ouais, je pense en tout cas ce qui est vraiment important, c'est quel qu'il soit, c'est de l'avoir ce plan. Même si ça commence par, je pense toujours aux collègues les moins à l'aise avec tout ça, parce que déjà, tu vois, tout ce que tu évoques, Jeff, de faire finalement mise en place d'un forum ou d'un temps synchrone, tout ça, ça demande quand même des fois des gens qui ont après un minimum manié en amont, des choses comme
oui,
ça.
Oui, après les collègues ne sont pas tout seuls non plus, il faut penser, il faut se reposer sur,
ouais, tout à fait.
Sur voilà, tout notre à fait. Référent numérique dans l'établissement ou, quelqu'un, ou un enseignant qui est plutôt à l'aise avec. Faut, voilà, il faut, je pense qu'il va,
oui.
Il va forcément avoir un travail de tous ensemble.
Moi, à partir de maintenant, ouais.
Voilà, moi je trouve
je pense que
déjà aujourd'hui,
les référents numériques.
Déjà aujourd'hui, j'ai trouvé, moi, en tout cas dans mon établissement, un travail collaboratif dès le premier jour qui s'était fait rarement en présentiel, quoi, tu vois.
Oui, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord.
Voilà. Rien que ça, c'est déjà un bon début.
Voilà. Après, ce que je voulais dire, toujours peut-être un peu en préambule d'une manière plus large, et on en a discuté ce matin aussi en équipe, et je suis vraiment d'accord avec ça, c'est que tu l'as dit, il faut garder du contact avec les gamins. C'est-à-dire, faut juste leur rappeler qu'il y a encore, il y a encore une forme d'école, qu'on est là, en fait, hein, que ça soit sur plein de plans, hein, sur un plan, on va dire, intellectuel, bien sûr, enfin, sur un plan de savoir, du moins, mais je crois surtout pour garder justement une activité intellectuelle, en fait. Et on pourrait même l'envisager physique, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de cours à proprement donné par nous, qu'ils nous fassent des retours, tout simplement, surtout si ça venait à durer, hein, sur ce qu'ils ont pu voir comme série, lire comme livre, voire même jouer comme jeu vidéo, enfin, avoir de l'échange. Et un collègue ce matin évoquait les profs d'EPS, ils vont faire quoi à la distance? Et ben, en fait, si, il y a plein de trucs, hein. Alors tout le monde se marre avec les blagues qu'on voit sur Internet, la Véronique et Davina, bien sûr, puis bien sûr, ça fait sourire. Où on voit jour 1 du confinement le prof dans sa webcam, tout ça. Mais en fait, juste leur donner 2-3 trucs pour faire des exercices. Enfin, moi là, j'ai passé une journée tout seul avec ma famille chez moi. Enfin, une après-midi même. Ce matin, j'étais dans mon collège pour une dernière réunion de crise. Une après-midi, j'ai la chance d'être dans une maison. Heureusement qu'on peut sortir un peu les gamins. Je pense à tous les collègues,
bah oui.
Tous les enfants qui sont en appartement. Comment ils vont faire, quoi. Donc voilà, des toutes petites routines, en fait, de la routine. Voilà. Et pareil pour toutes les arts, tout ce qui concerne les arts. Les collègues d'art qui puissent demander de dessiner, de critiquer une œuvre, d'écouter. Enfin, vous voyez, mais tout ce lien, je pense que là, il faut absolument qu'il soit fait, quoi.
Ok,
j'ai fini.
C'est bon.
Non, mais j'en profitais parce que j'ai été agréablement surpris par. Alors, on a tous eu en recommandation ministérielle ma classe à la maison.
Tu l'as toujours un petit peu. Hein.
Oh, désolé.
Ouais.
Du coup, oui. Alors, ma classe à la maison, je suppose que tout le monde en a entendu parler, vu que c'était les injonctions ministérielles qui nous le proposaient comme ressource magique. Alors autant je vais pas trop m'apesantir sur le contenu parce que à titre personnel ça me convenait pas du tout par rapport à là où j'en étais dans le programme et à d'autres détails, mais par contre il y a un outil de conférence, de direct
tu m'as piqué mon outil.
Vas-y.
Non, on va juste finir là-dessus. Donc voilà, la petite infographie, il y avait justement sur l'histoire des classes virtuelles, tu en as parlé, il y a une petite explication, voilà, des choses courtes, de bien limiter le temps, utiliser les outils d'interaction, etc. Il faut vraiment qu'il y ait un outil de classe virtuelle où justement où on peut contrôler tout ça. J'en parlerai pas plus. Et puis la partie évaluation, parce que ça se pose aussi, est-ce qu'on évalue encore à distance? C'est la question qu'on entend souvent. Moi, j'ai envie de dire, peu importe. Hein, si vous sentez de faire des petites évaluations sous forme de QCM sur une petite production orale ou audiovisuelle, si vous sentez, d'un petit retour d'un fichier joint que les élèves vous envoient. Pourquoi s'arrêter d'évaluer en distance? Voilà. Ça, c'est, en tout cas, c'est plus mon point de vue là-dessus, mais voilà.
Ouais, moi, j'ai plein. Je suis pas d'accord dans un premier temps parce que moi, je veux bien évaluer si on est certain, comme d'habitude, que les élèves puissent le faire. Quoi. C'est toujours pareil. Si tous les élèves ne sont pas en capacité technologique technique même d'ailleurs d'abord de le faire, on fait quoi, tu vois? Donc c'est plutôt ça en fait.
Parce que j'entends beaucoup de dire on n'évalue pas à distance. Voilà.
Ah non, c'est pas ce que je dis non plus. C'est pas ce que je dis non plus. Moi, ce que j'ai proposé quand on m'a posé la question, je dis OK pour l'évaluation. Ça me paraît être intéressant pour certains élèves qui vont jouer le jeu et qui en ont besoin, mais ça ne peut rester que du bonus en fait. C'est-à-dire qu'on on va pas s'amuser à allumer tous les gamins qui ne feraient pas le travail comme on peut le faire dans une situation normale de classe.
Oui,
quoi, c'est
d'accord.
Tout.
Oui. Encore autre chose.
Et je crois que je suis pas sûr que ce soit très clair pour beaucoup de collègues, tous ces collègues qui n'ont jamais l'habitude de travailler avec du matériel, qui vont jamais en salle informatique, qui sont jamais face à des situations où un gamin ne va pas parler le même temps que les autres parce que pour X ou Y raison l'ordinateur n'aura pas démarré de la même manière, ou avec des tablettes ou autre chose, et qui là part du principe que si il y a l'ENT et que tout le monde ça marche et voilà. Donc tout le monde ça marche. Je parle bien la France, que ça marche pour tout le monde. Donc à mon avis, il faut faire attention à l'évaluation à distance pour ça. Si après, tu as un temps donné où le gamin il peut essayer sur d'autres machines, tu vois, ça règle le problème. Mais là, ils vont être confinés chez eux par définition, donc c'est délicat. Quoi.
Enfin, en tout cas, on va être beaucoup dans le test. Hein, faut pas se leurrer. Hein,
bien
on
sûr.
Va essayer pas mal. Moi, je vais essayer beaucoup de choses. Voilà, donc quand on se casse la figure un moment, c'est possible aussi. Donc voilà.
Et il faut se la casser. Enfin, je pense qu'il faut vraiment profiter de cette expérience-là pour que ça plante et qu'on se dise ben c'est pas grave en fait. Hein. Moi, je le prends un peu comme un bac à sable, quoi. Voilà.
Bien sûr.
Ouais, d'autant plus que ceux qu'on a en face de nous vont être encore plus indulgents que d'habitude, quoi. Ils comprennent que voilà, c'est une situation exceptionnelle. Et ils pourront être plus à même de pardonner quelques pains, quelques petits
ratages,
quelques petits cassages de gueule, quoi.
Bien sûr. Voilà.
Et moi, là où je suis très curieux pour finir là-dessus, c'est que j'en mets pas ma main à couper, mais je suis à peu près sûr qu'on va avoir plus dans un premier temps de participation et de connexion qu'on peut l'imaginer. Moi, je suis donc dans un bahut plutôt difficile et. Tout de suite, quand il s'est passé ça, je me suis dit, mais en fait, c'est mort. J'ai mes deux classes de troisième, c'est mort, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des classes profil où les gamins, de toute façon, font aucun travail à la maison. Mais quand je dis aucun, c'est aucun. Et en fait, là, j'ai déjà eu deux messages de gamins me disant, monsieur, on fait quoi? Donc, je suis à peu près sûr que finalement, c'est des modalités. Alors, ça sera pas miraculeux, ça va pas durer, mais j'y crois.
Tout à fait. Moi, je suis un peu comme toi aussi, de ton avis. Bon voilà, en tout cas vous retrouvez cette infographie sur le site de la danacelyon.fr. Il y en a qui avaient mis d'autres choses sur cette partie enseigner à distance, c'est quoi? Peut-être que vous voulez en parler, c'est peut-être Seb, non, je sais plus.
Moi j'avais mis, en fait la particularité chez les profs de FLE, c'est qu'il y en a déjà beaucoup qui enseignent en ligne, avec pas mal de plateformes qui sont déjà prévues pour ça. Et donc il y a eu un petit webinaire aujourd'hui sur le café du FLE qui je mettrai tous les liens seront là, hein. Vous pouvez le revisionner encore avec 6 profs qui en parlent, et c'est des profs assez connus. Il y a Jérôme Rambert, je sais pas si vous l'aviez pas reçu.
Oui, moi j'ai reçu.
On l'avait eu, qui est en Italie maintenant.
Italie, ouais.
C'est ça. Bah justement, tu vois, ouais, David Cordina aussi qui est à Hong Kong, je crois. Il y a Marguerite Bickel qui était avant chez aux éditions Didier. Donc c'est des gens sympas, et ça peut être des bonnes pistes pour voir comment eux ils font. Et puis j'ai remis en lien des podcasts que moi j'avais fait sur Agito, comment enseigner en ligne, les activités autocorrectives. Il y avait des trucs sur la classe inversée, tout ça, donc ça peut inspirer un peu pour ceux qui sont à la recherche de pratiques. Mais encore une fois, là, dans l'urgence, malheureusement, je vais pas avoir de baguette magique.
Eh ben très bien. Donc après, on va essayer en tout cas de parler outils, forcément, hein, quand on parle de ça. Alors on va pas non plus faire le catalogue d'outils. En détaillant tous les outils, on va essayer, en tout cas, c'est moi qui ai essayé de faire en tout cas un petit classement.
Un classement.
Voilà, d'outils. J'ai essayé de mettre un classement sur communiquer, échange de documents, création de vidéo et de dépôt, interaction avec les élèves, live, visio, classe virtuelle et évaluation. J'ai essayé de classer comme ça les outils. Ce que je vous propose, c'est ben qu'on détaille en gros les outils sans rentrer vraiment dans les détails plus particulièrement. C'est des outils que certains sûrement connaissent, qu'on a déjà parlé nous sur eTeachers. Donc voilà, on explique un petit peu les outils, le pour, le contre, etc. Et on peut bien sûr rebondir dessus, en tout cas si on dit des bêtises. Vous en pensez quoi ? On fait comme ça ?
Bon, on va faire comme ça. Je vais juste prendre la main parce que je ne savais pas vraiment où ranger les outils que j'avais mis entre communiquer et échanger des documents. Parce que l'échange de documents que je propose, il est à sens unique. Là, pour un vrai échange de documents, à part l'ENT dont on est doté, j'en ai pas des tonnes. Donc pour communiquer facilement, disons que je vais vous proposer des solutions de bricolage. Voilà, parce que
communiquer ou échange de documents là ?
Communiquer des documents, voilà. Je vais te le présenter comme ça. Voilà. Entre les deux.
Il casse tout mon passe.
Je sais, je suis comme ça. Donc on va bricoler, parce que c'est ma grande passion, le bricolage. Donc vous n'avez rien, vous n'avez pas prévu le coup, et voilà, vous avez besoin de communiquer, que ce soit un plan de travail, que ce soit des documents divers et variés. Comment vous pouvez vous y prendre sans que ça devienne une catastrophe ? Alors on va mettre de côté l'ENT, parce que ça peut être la base, mais si vous n'en avez pas, et même si dans le primaire, on en a beaucoup qui sont passés en mode gratuit à cette occasion-là, disons que ça peut aussi faire son effet avec ce genre de petites choses. Alors, on a le vieux Padlet qui peut être pas mal pour communiquer des documents. Bon, d'accord, on en a droit qu'à trois si on s'inscrit maintenant, mais avec un seul, ça suffit, hein, de Padlet. Padlet, c'est le tableau où on va mettre des images, du texte, des vidéos, ce genre de trucs, et des élèves vont pouvoir cliquer. Alors, faites attention. Pour les trois premiers, il faut se mettre en lecture seul, sinon les enfants peuvent aussi modifier ce que vous avez mis. Ce serait rigolo, mais pas tôt. Voilà, donc Padlet, ça peut être une solution. Moi, j'utilise aussi un bon vieux classeur OneNote en lecture seule.
Je peux te couper aussi sur Padlet, je peux en rajouter quelque chose. Je dirais que c'est presque pas dans un sens, puisque tu viens un petit peu le dire, on peut récupérer des documents élèves, justement.
Voilà. D'accord, alors à ce moment-là, tu acceptes qu'ils puissent le modifier, tout
c'est
simplement.
C'est ça, tout à fait. Donc voilà, moi je pense que ça marche, c'est un... et puis sans connexion élève, etc. Donc ce qui est la base aussi.
Oui, c'est vrai que tu partages un lien et puis c'est bon.
Voilà.
Tandis que OneNote, par contre, là, ça va être plus compliqué si vous le faites en autre qu'en lecture seule. Mais bon, ça, vous pouvez aussi. Mais je crois que si les enfants veulent mettre des trucs, par contre, là, il leur fera un compte eux-mêmes. Donc c'est un peu moins. Voilà, moi je pense sincèrement, moi je m'en sers comme manuel, je mets que des documents qu'ils peuvent consulter, style les corrections du fichier du petit fichier de travail que je leur ai donné aujourd'hui, elles vont être sur manuel dès demain. Voilà, après vous avez tous les drives bien sûr pour partager des fiches que vous avez conçues vous-même, etc. Alors, on fait attention avec les données des gamins, etc., on n'en met pas du tout, ça c'est réglé, mais pour donner des documents, je dois avouer qu'ils encaissent pas mal la surcharge qu'on a en ce moment.
Ouais.
Et sinon, vous avez aussi la possibilité de vous faire un petit blog, tout simple. Hein, si toutes les solutions d'avant elles vous semblent un peu trop techniques, un blog, il n'y a pas grand-chose à savoir pour le faire. Alors attention, je ne vous parle pas de partir dans un blog où vous allez taper des lignes de code comme à l'ancienne. Non, je vous parle, il y a pas mal de plateformes qui vous proposeront des blogs tranquilles, clés en main. Profitez-en, hein, ça peut être aussi une solution. Donc, je récapitule, on a donc Padlet, on a OneNote, on a des drives, on a des blogs, tout ça pour donner des documents aux enfants. Écoutez, ça vous fait quatre solutions possibles.
En tout cas, des blogs, si je sais pas si tu as des solutions de blogs à donner, mais un WordPress,
Écoute-moi, à l'époque,
je trouve ça plutôt simple et efficace.
Oui, si tu veux WordPress, c'est simple et efficace. Sinon, moi, j'ai un vieux blog sous Blogger de chez Google pour donner des documents. J'ai envie de te dire, il n'y a pas besoin que ce soit très très performant.
Non, mais est-ce que Blogger fonctionne encore ? Je ne sais pas. Si ?
J'ai toujours mon blog dessus.
D'accord, ok, ça marche. Et Drive, je peux rajouter quelque chose ? Moi, si vous voulez, un Drive respecte les données, etc., qui est RGPD, c'est le Drive qu'on conseillait, c'était Cozyn, ou COZY, qui est français, je crois, hein, Cozyn, en plus. Voilà.
Tout à fait.
Est-ce qu'il est gratuit ou il y a un abonnement ?
Non, il est gratuit. Alors, je ne sais plus quelle limite, peut-être Guillaume, tu vas peut-être le savoir, non ?
Je l'ai regardé tout à l'heure, j'ai oublié, mais je crois que c'est au moins de l'ordre de 8 gigas de base. Hein.
Voilà.
Bon, 8 gigas, t'as de quoi faire. Hein.
C'est pas mal. Alors, moi, j'ai découvert ça pareil en travaillant sur des outils RGPD, parce que je vais pas mentir, hein, comme tout le monde, j'ai des outils perso non RGPD pour stocker mes fichiers perso. C'est quand même vraiment pas mal. En plus, ça embarque un système de à la One Password pour générer les mots de passe et les sauvegarder. Il y a des trucs pas mal.
Ok. D'autres choses sur les échanges de documents, non, à rajouter?
Non, moi j'ai fait mon tour.
On a sauté un peu communiqué, moi je viens d'y penser maintenant, que bon, communiquer, quand on a des ENT, ben, y a pas trop de soucis. Quand on a une plateforme de formation à distance, type, que tout à l'heure tu disais, Moodle, G Suite, etc., y a pas trop de soucis, mais y a beaucoup, beaucoup encore de personnes, ben, justement, qui n'ont pas de système de communication, et aller se mettre sur des sites... sur des WhatsApp ou des machins comme ça avec des données élèves est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. En tout cas, il y en a une qui est open source et RGPD, c'est l'application Signal, qui est assez connue en tout cas pour être très sécurisée, où on peut se créer crypté. Ouais, qu'on peut se créer un groupe
chiffré
le vrai nom, ouais. Et qui on peut se créer un groupe dessus et on peut échanger facilement. Voilà, moi c'est peut-être une des seules que j'ai à proposer, en tout cas si on n'a pas de service, en tout cas si on ne nous propose pas un service de type ENT.
Laquelle, pardon Jeff, excuse-moi, j'étais...
Signal.
D'accord.
Sinon, c'est dommage que CHAP soit pas...
ouvert aux élèves.
Voilà, on puisse pas l'ouvrir plus que ça ou créer des groupes, etc. Parce qu'on l'a tous sous
après,
la main.
Signal, il est RGPD ?
Ouais, RGPD, ouais. GPT, open source et compagnie. CHAP, alors c'est vrai que tu dis CHAP, mais c'est notre WhatsApp education.gouv.fr, quoi, hein, en gros, hein, pour le résumer. Et en fait, ouais. On peut communiquer déjà entre collègues, c'est déjà pas mal. Mais ce matin, il avait énormément de mal.
Ouais, bah, comme tous, malheureusement.
Comme tout. Mais CHAP, oui, c'est une bonne solution, en tout cas, si vous voulez communiquer en équipe. Qui est 100% français par contre, hein. Je suis désolé pour les autres, ça vous ne pourrez pas l'utiliser en dehors de la France.
Après de la sur, oui. Sur ces outils-là, j'ai quand même du mal à envisager l'intérêt d'avoir ça en classe sans que ça dégénère trop, tu vois.
Au point de vue
La messagerie instantanée, je vois pas bien, parce que finalement une messagerie avec les élèves, c'est qu'on n'a pas besoin du synchrone. En même temps, avoir une
j'ai bien précisé synchrone. Pour ceux qui n'avaient pas de NT, hein.
Ouais, d'accord.
Vraiment à proscrire le résultat, hein. Mais
d'accord. Ok.
Voilà. Moi, je pense. Hein. On y va. Alors c'est moi en plus qui ai mis la suite, non? C'est moi qui ai mis la suite. Création de vidéos et dépôt, puisqu'on va quand même. Enfin, moi je pense que c'est un des médias qu'on va en tout cas proposer le plus. Création de vidéos, j'aurais dû marquer audio même. Donc, un simple truc que j'ai proposé à mes collègues, c'est filmer son écran, tout simplement. Ce qui se passe à l'écran. Notre PowerPoint qu'on a, comme tu disais Seb, notre cours qu'on avait fait en diapo. Et bon, on va pas le refaire, mais on pourrait le filmer et en même temps parler dessus pour expliquer un petit peu le diapo. Ça se fait en deux temps, trois mouvements. Il y a pas mal d'outils. Moi, il y en a un que j'utilise, que j'aime bien, qui s'appelle Screencast-O-Matic. Vous allez le trouver. Et en fait, simplement, vous le lancez et il vous filme tout ce qui se passe à l'écran et ça enregistre ce que vous parlez. C'est assez simple. On ouvre son diapo, on le fait circuler et on fait comme si on était en live avec les élèves. Et on fait un cours et ça enregistre une petite vidéo. Et après cette vidéo, bah, vous la partagez avec différents dépôts que vous avez. Si vous n'avez rien de spécial, en tout cas dans votre académie, pour déposer des vidéos, bah, il existe plein de services de streaming que vous connaissez, hein, et que vous partagez facilement après d'ailleurs. D'autres choses?
Ouais, tant que tu es sur ton PowerPoint, tu peux simplement enregistrer ta voix sur le PowerPoint.
Oui, aussi. Mais après, pour le lire, comment tu fais après d'ailleurs pour le diffuser aux gens?
C'est pareil, c'est-à-dire que tu envoies ton PowerPoint, le son est inclus avec, et chaque fois que tu passes à une slide, la lecture se lance automatiquement.
Si tu as pas PowerPoint, ça marche?
Ah bah, si tu n'as pas PowerPoint, tu n'as pas fait de PowerPoint pour présenter ton cours.
Non, mais pour les élèves, je parle. Pour diffuser aux élèves.
Pour les élèves, mais tu dois pouvoir l'exporter en vidéo.
Ah, d'accord. Ah non, mais moi, je parlais même pas de l'exporter en vidéo. Je parlais simplement de le...
Oui, d'ouvrir le PPT et... oui.
Bah, tu peux faire la même chose avec, avec LibreOffice Slide.
Google Slide, d'accord.
À LibreOffice, je ne sais pas s'il ouvre les points.
Ouais, il ouvre les PPT, hein, LibreOffice. Hein.
Non, non, mais je sais qu'on peut faire audio, mais il fallait qu'au bout, on ait PowerPoint, quoi. Voilà, il faut qu'on ait l'outil.
Ouais.
Donc,
tu as toujours la version en ligne d'Office qui est gratuite. Hein.
Sur un smartphone, t'es grillé ou non? Non.
Sur un smartphone, si tu as l'application Office, ça ouvre.
Ouais. Ça complique un peu les choses, je trouve. Voilà. Une bonne vulgaire vidéo.
Pas faux. J'avais rajouté, Jeff, un petit truc. OBS fait aussi la même chose que Screencast-O-Matics.
OBS, c'est ce qu'on utilise j'utilise ce soir, là, c'est ça?
OBS, ouais, lui, ou lui-même, tu peux enregistrer simplement ton écran avec.
D'accord. Bon, il est un peu costaud quand même, OBS, non?
Bah, c'est un peu le couteau, tu sais, c'est un peu comme VLC, c'est des couteaux suisses, donc tu peux faire 15 000 trucs avec. Mais sincèrement, pour enregistrer son écran, c'est pas très très compliqué non plus.
Non, parce que Screencast-O-Matics, c'est enregistré, arrêté, hein, voilà.
Bon, ben alors, voilà. C'est la solution la plus simple, je te le concède.
Bon, en tout cas, si vous voulez aller plus loin, j'avais parlé dans une émission de Powtoon, P-O-W-T-O-O-N, qui là permet de faire la même chose, de filmer son écran, etc., mais avec un peu plus chiadé, c'est-à-dire un peu plus ludique, avec des animations, avec du son, avec des petits personnages qui parlent pendant que vous parlez, avec des personnages qui bougent, etc., etc. Là, on est quand même sur des choses un peu plus évoluées, mais si vous avez envie d'aller un peu plus loin que le simple diapo qui circule avec votre voix, il n'y a pas Powtoon, il existe pas mal de tutos, vous trouverez plein de tutos sur Internet. Ça prend du temps, surtout les premières fois, mais après c'est vrai que c'est assez ludique et les élèves adorent. Je l'avais utilisé pas mal moi en classe inversée, donc on est un peu dans la même veine.
Pas mal.
C'est bon pour cette partie vidéo dépôt. Ouais.
Ouais. Ouais.
Interaction élève. Comment rentrer un petit peu avoir de l'interaction avec les élèves. Seb, allez.
Ouais, donc ben moi, mon chouchou, hein, vous m'entendez là.
Hein. Mm-hmm.
Ouais. Mon chouchou, c'est toujours H5P, qui est là aussi un couteau suisse de création d'activités interactives. Donc, il y a des présentations de cours dans lesquelles vous pouvez. Donc, ça fait comme un PowerPoint, mais avec des activités, des textes à trous, tout ça qu'on peut mettre à l'intérieur. Et après, en fait, vous pouvez, il y a plein de façons de les partager. Ça peut être juste un lien, ça peut être embarqué sur une plateforme, ça peut être embarqué n'importe où, en fait. Et il n'y a pas besoin d'inscription pour les faire. Il y a aussi un plugin Moodle pour créer directement dedans. Donc bon, bah là, il y a tout qui est possible. Hein. On peut créer des vidéos interactives. Ça, il faut mettre ses vidéos sur YouTube d'abord. Et puis après, on rajoute une surcouche pour les activités. Truc très ambitieux, ils ont rajouté le scénario par branche. Ça, je vous conseille d'aller voir. Parce qu'il y a un exemple d'une école. C'est assez fou. Ils ont fait une formation pour des assistants sociaux. Donc avec vraiment des vidéos vues à la première personne où ils rendent visite à une femme et ils regardent l'appartement, etc. Puis des roues de dialogue, c'est super impressionnant. Mais après, il y a tout, quoi. C'est par exemple, on peut faire, il y a des dictées, il y a de la reconnaissance vocale. Donc vous marquez l'opération 1 plus 1 et puis il faut que l'élève dise 2, par exemple. Et il y a de la reconnaissance vocale pour voir si c'est bien dit, il y a des quiz de personnalité, il y a plein de choses, des questions à choix multiples, des textes à trous, ça c'est des vrais faux, des frises chronologiques aussi, il y a même maintenant des visites à 360. Donc si on n'est pas perdu, c'est toujours un peu le même truc qui revient. Donc là, c'est vraiment un outil super, super complet qui peut servir à plein de choses, que ce soit pour des présentations ou des exercices interactifs. Et c'est vraiment un truc que je recommande, quoi.
C'est un outil très, très puissant et je rajouterais qu'en France, en tout cas dans nos ENT, de nombreuses ENT l'ont intégré directement dedans.
Les memories, les drag and drop et tout, c'est super.
Ouais. Ouais, et donc, en plus, on a les retours élèves avec leur nom. Hein, si c'est dans les ENT, donc ça c'est assez sympa. Sur un WordPress, sur un blog WordPress aussi, on peut tout à fait intégrer un H5P. Donc c'est un outil très très puissant. Il y a une petite prise en main quand même, Seb. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, petite,
Voilà.
mais comme y a des tutoriels pour chacun, et puis on peut tout de suite télécharger des exemples. Et puis, ce qui est le gros avantage aussi, c'est que quand vous créez une activité, il y a toujours la possibilité de la télécharger, donc elle est, et puis de la mettre en code embarqué. Donc, même si vous changez de NT, si vous changez d'environnement,
perdu,
si vous ouvrez
hein,
un blog, elle n'est jamais perdue. Et ça, c'est précieux.
Ouais, non, mais c'est, non,
ça,
mais je suis, c'est sûr, c'est sûr. C'est vraiment très très puissant, ShengPE.
Ouais.
Très bien.
Bien. Je peux y aller.
Oui, oui, je vois que tu n'es pas noté, c'est pour
ce
ça.
Document.
Bah oui, je vois bien, tu mets rien. Mais non, après, je cherche, après je complète.
Toujours à l'arrache. Non, non, mais moi, c'était sur les interactions élèves, c'était quelque chose de très connu, donc je ne vais pas y passer 3 heures. C'était tout simplement de. Là, un outil comme Socrative, dont on a parlé maintes et maintes fois, permet très facilement d'interagir. Enfin, de récupérer des réponses des élèves, je veux dire, de manière facile, avec des tableaux, avec, enfin, comme vous, ceux qui ont l'habitude d'écouter et connaissent Socrative, on récupère tout ça sous forme de tableur. C'est très, très facile de s'apercevoir de qui a fait le travail, pour le coup, à distance et pouvoir voir ce qu'ont fait les élèves. Donc voilà, c'est un outil que j'utilisais moi en classe, que je me remets à utiliser pas mal sur ce début de confinement. Et je pense qu'il est vraiment très simple pour les plus... débutants enfin les moins à l'aise avec toutes ces granules qui existent, tous ces logiciels qui existent. Voilà.
Ils ont une version payante pour.
Ouais. En fait, le seul problème, c'est que la version gratuite te permet que de lancer un seul quiz à la fois. C'est-à-dire que si tu as plusieurs classes, voilà. Donc après, tu peux détourner ça en mettant des quiz plus importants avec plus des questions avec plusieurs élèves. Enfin voilà. Mais bon, comme pour l'instant, voilà, je les ouvre et je les ferme un petit peu en fonction de.
Je crois qu'ils appartiennent aussi à une autre boîte et moi j'avais reçu un email pour demander des comptes gratuits pour une école ou une institution et que finalement donc c'est ce qu'ils ont voulu faire et puis ils ont lancé le truc, leurs serveurs n'ont pas tenu et donc ils sont revenus un peu en arrière en disant on est désolé, on voulait vraiment mais on ne peut pas et du coup ils ont ouvert quand même au district, ici ça marche par district un peu comme en France pour les académies. Ouais, ils n'ont pas réussi à ouvrir gratuitement pour tout le monde, malheureusement.
Et de la même manière, mais quelque chose de plus français, voilà, qui pour faire un peu des quiz et récupérer des travaux d'élèves, tout ça, il y a le Canopé qui avait créé la cuisinière, hein, cuisinière. Voilà. Quiz,
vas-y, pique mon truc.
Ah pardon, je suis désolé.
Ce soir, c'est la spécialité. Hein, vous me piquez tous vos trucs.
Ok, messieurs, dames qui nous écoutez, je suis désolé. Je suis
vas-y, allez, fini. J'ai trop parlé.
Pas à regarder le document de l'émission. voilà, la cuisinière, donc un cocorico, hein, puisque développé par Canopé, mais tu vas pouvoir compléter, Jeff. Hein. Voilà, autant Socrative est un outil vraiment qui est dédié, pour moi, je l'utilisais plus comme un outil de classe, de gestion de classe en direct, parce que je trouve que c'est très pratique avec l'application prof, de voir avec les élèves en contexte, voilà, ce qu'ils font, où ils en sont, c'est vraiment du live, quoi, ça marche très très bien. On peut s'en servir en différé, comme j'en ai parlé un peu avant, mais voilà. La cuisinière pour du live, entre guillemets, pour de la classe en temps réel, moi, je l'utilise pas trop, j'aime moins, je trouve que c'est un peu plus lourd. Par contre, pour de la synchrone, je trouve que c'est très bien. Il y a beaucoup plus de possibilités que Socrative en termes de, voilà, les quiz peuvent être accompagnés de médias. Voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal foutu et je le recommande vivement. Vas-y, je te laisse compléter. T'as quand même quelque chose à dire.
non, je répète la même chose. Oui, c'est vraiment un outil très très puissant avec beaucoup plus de possibilités. Tu as raison, hein, puisqu'on peut faire du texte à trous. Tu as raison, de l'association. J'en oublie de certains, du rendu en audio, du rendu en photo. Etc. Vraiment, vraiment très très puissant et qui marche sur tous les appareils. Je l'avais fait moi, tu vois, je l'avais fait pas qu'en asynchrone, je l'avais fait en synchrone. J'avais fait une évaluation une fois sur tablette avec la cuisinière, tu vois. Donc ça a plutôt bien marché. Et c'est un outil très très puissant.
Un peu plus lourd, moi.
Ah ouais ?
Ouais, en direct, mais bon, après c'était lié certainement à plein de paramètres.
Non, un QR code, tu donnes et hop. Donc non, c'est un outil hyper puissant, très facile à prendre en main, en plus pour les collègues. Pas mal de collègues l'ont pris en main assez facilement. Donc voilà, la cuisinière, c'est vraiment un... alors, quid de ce qui va devenir, je ne sais pas.
La peinture de Canopé, ça c'est sûr. J'espère que ça sera gardé quand même.
C'est vraiment un outil puissant. Voilà.
Et pour terminer sur les quiz, quelque chose, voilà, plus pour les petites classes, moi on va appeler ça, que vous connaissez certainement tous, qui s'appelle Learning Apps, oui. Qui est un petit peu le... s'il y a des vieux un peu comme nous qui ont connu dans les années 90 le Hot Potatoes qui permettait de faire des...
voilà, magnifique.
Des magnifiques Hot Potatoes, voilà, tout un tas d'exercices. C'est un petit peu la suite en HTML5, beaucoup plus récent, avec beaucoup plus de possibilités. Donc on peut créer des pulls, on peut créer des textes à trous, du drag and drop, des zones de dépôt, on peut créer tout un tas de trucs. Learning Apps, il a une possibilité... intéressante, c'est que tous les exercices sont mutualisés, enfin peuvent être mutualisés. Donc quand vous créez un exercice, vous pouvez le mutualiser, ce qui fait qu'il y a déjà une énorme base de données. Alors par contre, on va pas se mentir, hein, c'est très très bon pour de la connaissance, des petits du vocabulaire, langue, voilà.
Il n'y a pas de retour.
Vocabulaire, ce genre de choses, mais c'est à peu près tout. Cherchez pas à développer quelconque compétence avec ça.
Ouais, il y a quand même beaucoup de choses.
Et moi, il y a beaucoup de choses, mais
la seule différence avec ce que les outils qu'on a présentés avant, c'est qu'il n'y a pas de retour élève. Voilà, on ne sait pas. Voilà.
Alors.
Voilà.
Maintenant, tu peux.
Si, ah bon.
Il faut créer. Le problème, c'est qu'il faut créer. Le problème, c'est qu'il faut créer des comptes élèves. Voilà, c'est pour ça que personne n'en parle jamais.
Ah d'accord. Je savais pas.
C'est, okay. C'est très lourd. C'est beaucoup plus lourd. C'est voilà. Donc c'est un peu plus compliqué. Moi-même, je l'ai jamais fait. Tu vois, j'en ai parlé en fait récemment à quelqu'un qui m'a dit si, on peut le faire.
Peut-être. Mais une future intégration dans les ENT, ça, ce serait bien.
Et ben, je crois que c'est possible, puisque quand tu crées un exercice, ce qui est sûr, c'est que tu peux récupérer le code iframe.
Oui, non, d'accord, non, mais je parle uniquement au point de vue récupération des données élèves.
Ah oui, bien sûr. Voilà, ouais. Peut-être, ouais. Et par contre, voilà, pour être sur plein de réseaux de profs, c'est toujours le truc qui est ultra utilisé, ce que les profs de langue adorent, faire travailler du vocabulaire.
Il était tombé ce matin aussi, tu vois.
Et il est tombé ce matin, c'est ce que j'allais dire.
Ouais. Donc, la tu vois,
en général. Voilà. Voilà.
Donc, c'est d'ailleurs, Learning Apps. Petite astuce qu'on avait déjà, cité, on peut comme les exercices sont encapsulables, on peut les récupérer et les mettre dans un book creator.
Ah oui,
ça fait longtemps que j'en avais pas parlé.
T'en avais parlé, c'est vrai.
Voilà.
Et ben tu peux faire pareil avec H5P.
Ah, ah ouais, possible. J'avais un doute sur H5P.
Bah t'as du contenu embarqué, donc c'est pareil, tu mets ton code embed dedans.
Ah, super.
Tout à fait.
Ça fait de bons gros bouquins du coup. Moi, pour continuer dans les, pour vous proposer un outil qui vous donne des plans de travail avec un retour sur les réponses des élèves, on va reparler de quelque chose dont Seb avait déjà parlé, mais il y a fort longtemps. C'est Classe Numérique. Classe Numérique, ça vous propose des plans de travail dans mes souvenirs surtout l'élémentaire, même en sixième, il y avait une option, mais je ne sais plus si elle a été activée en définitive. Il a été remis à jour ce dimanche. Voilà. Pour dimanche, il avait fait une remise à jour. Et aujourd'hui, forcément, il était à plat pour changer. Mais c'est vraiment un outil qui est super intéressant, avec de grosses possibilités, qui est gratuit. C'est quand même intéressant. Ça fait partie des outils que vous pouvez retrouver sur la plateforme monécole.fr. Et monécole.fr, vous pouvez aussi accéder à d'autres services que j'aime beaucoup. Il y a Rallye Lecture, par exemple. Alors vous allez me dire, oui, mais les enfants n'ont pas les livres. Si, parce qu'en fait, sur la plateforme Rallye Lecture, alors attention, là par contre, il y a nécessité d'un abonnement qui est quand même très bon marché. Hein. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'est pas la plus grosse de mes dépenses de cette année. RallyLecture.fr, vous avez certains documentaires à lire en ligne et des questionnaires associés que vous pouvez choisir pour vos élèves, etc. Et si vous en avez pas assez, vous pouvez aussi vous abonner à Matero. Moi, c'est un logiciel de calcul mental. C'est le premier truc que mes élèves m'ont demandé là en partant. C'était les codes pour pouvoir se brancher sur Matero, qui est du calcul mental où ils vont finir par habiller leurs super-héros s'ils réussissent suffisamment d'exercices de calcul mental. Enfin voilà. Donc monécole.fr, j'espère qu'il va mieux ce soir. Je crois que oui, parce qu'ils attendaient des serveurs chez OVH. C'est vraiment une mine pour ça.
Ouais, Rallye Lecture, mes filles l'ont fait. Elles ont bien kiffé aussi. Elles aimaient bien. Et puis il y avait une petite compétition entre élèves de la classe et tout ça. Donc c'était cool.
Ouais, non, mais l'outil est vraiment, vraiment bien fait. J'ai un seul petit regret, c'est que celui qui a fait ça ne soit pas encore venu nous en parler. Donc Orphis, si tu nous écoutes.
Très bien. Cinquième partie, j'avais classé ça dans live visio, classe virtuelle.
Laisser parler.
Allez, j'attaque, ouais. Oui, t'en as parlé tout à l'heure. C'est vrai que notre ministre en France, en tout cas, nous a conseillé le CNED. Et la classe virtuelle du CNED, moi, je l'ai testé. Je l'avais testé un petit peu avant quand on en a un petit peu lancé. Et ensuite, ce matin, je l'ai testé en live. Je l'ai testé en live avec 25 profs pour leur faire voir comment ça marche. Ben, ça a tenu, ça a très bien marché. Par rapport à une visio classique comme on fait ce soir par exemple où tout le monde peut parler, vous êtes le maître à bord, hein. C'est vous qui décidez quand est-ce que les élèves peuvent prendre la parole. Ils lèvent la main, il y a un petit symbole pour lever la main, on leur donne l'accès à leur micro et hop ils parlent. Voilà, on partage notre écran, on a des petits modules de questions réponses aussi, assez simple mais assez sympa aussi pour réveiller un peu tout le monde. Voilà, qu'est-ce que j'oublie, je me suis fait avoir un peu sur
le tableau blanc.
Ouais, le tableau blanc, ouais, je l'ai lancé aussi pour que tout le monde gribouille dessus. Si on a un petit tableau blanc où on peut aller dessus. Si je mettrais un bémol, c'est qu'ils ont bloqué la partie enregistrement de la classe virtuelle. Bon, peut-être pour à des fins de comment ça s'appelle de
préservation de la vie privée, voilà. RGPD. Voilà.
Ce qui est un peu dommage pour ce matin avec les collègues, la présentation que je leur ai faite, j'aurais bien enregistré, tu vois. Donc,
oui, voilà. Alors par contre, tu vois, je vais te dire, moi le gros point positif, c'est que j'ai pu expliquer ça à des collègues qui sont pas trop trop informatiques, et franchement la simplicité de la chose, quand je leur ai dit ben ça c'est ton lien, ça c'est le lien que tu donnes.
Tout à fait.
Parce que quand on ouvre une classe virtuelle, elle est disponible pendant un mois et on a deux liens, j'ai dit ben ça c'est le lien, avec celui-là tu le recopies dans ton navigateur, tac, tu es désigné comme chef, et ça c'est le lien, ils vont seulement lui demander leur prénom. C'est tout.
T'as bien fait de préciser. Non, franchement, c'est franchement bien fait. Hein. Bon, d'ailleurs, c'est pas le CNED qui a développé, hein, c'est une société d'ailleurs.
Non.
Hein. Mais.
Implémenté. D'ailleurs, c'est
méchant. Ça.
Non, mais parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit c'est le CNED. Non, d'ailleurs, il y a bien une boîte, j'ai perdu le nom de la boîte, mais c'est très bien fait. Voilà, c'est très très bien fait.
C'est pas leur métier.
J'en avais vu d'autres de classe virtuelle, je la trouve vraiment très, très, vraiment puissante.
J'en teste une dans la semaine. Moi, j'ai rendez-vous avec mes élèves, on va voir, ça va être rigolo.
Voilà. Et sur smartphone, ça marche super. Il y en a quelques-uns ce matin qui étaient sur smartphone, vraiment nickel.
Exactement.
Aussi.
Ouais. Tu peux récupérer le son d'ailleurs par ton téléphone.
Ouais, alors ça n'a pas trop marché.
Je sais pas, j'ai pas essayé, mais en tout cas, sur smartphone, c'était nickel ce matin.
Même un numéro.
On a essayé.
Parce qu'il y a ma chef d'établissement qui avait pas de micro, elle a essayé de faire par son téléphone en appelant un numéro, je sais pas quoi, ça n'a pas marché. Mais bon. Voilà, en tout cas, et si vous voulez faire un truc très simple. Entre collègues, pas avec les élèves, je le conseille pas. C'est celui qu'on utilise ce soir qui s'appelle jitsi.org. Franchement, vous créez le truc, vous balancez le lien à tout le monde et c'est fini, tout le monde est dessus. Voilà.
Et pourquoi pas avec les enfants? T'as essayé? C'est quoi le nombre de connexions max? Tu le sais?
C'est pas ça le problème. C'est tu te vois à 25 là-dessus? Tout le monde prend la parole quand il veut là?
Ah, c'est pas fou.
Là, c'est l'enfer là pour toi. Là, là c'est l'enfer. C'est n'importe qui te parle. Rappelle-toi les quelques visios qu'on a fait à plus de 5 pour les teachers.
Ouais.
Déjà, c'était compliqué.
Bien sûr. Hein, je pensais qu'il y a bien l'outil pour lever la main, comme par exemple là, je viens de lever la main.
Mm-hmm. Un petit outil de chat aussi. Mais t'es pas le maître à bord. Il n'y a pas de maître à bord en fait. Voilà.
Oui, t'as raison. J'avais pas pensé à ça. Mm.
Seb, t'en avais un autre.
Et il n'y en a pas d'autres dans... Pardon, Seb, vas-y.
Ouais, moi j'en ai un autre, c'est Zoom, qui est normalement payant, hein, qui est quand même assez cher, puisque c'est du 15$ par mois par enseignant. Mais la version gratuite est vachement bien. Donc c'est un logiciel de classe virtuelle qui... vous avez deux options, il y a webinaire et puis meeting. Moi je vous recommande de choisir meeting qui va jusqu'à 100 personnes. Ouais, webinaire ça va à plus de 1000. Et l'avantage c'est qu'il y a plein d'options justement qui... Bah, ça fait le lien avec ce que vous disiez sur Jitsi. Donc par exemple l'option c'est de muter tout le monde quand ils arrivent dans la salle. Les élèves n'ont pas besoin d'inscription quand ils arrivent, donc ils peuvent suivre le cours sans inscription. C'est pareil, c'est un partage de liens, tout se fait via navigateur. Il y a quand même souvent un petit module à installer, mais qui est une installation assez légère, puisque même nous qui avons des ordinateurs avec des comptes qui sont pas admin, on arrive à installer ce petit espèce de plugin. C'est pas vraiment un logiciel. Et il y a aussi une option qui est vachement bien pour les profs de langue, qui est quand vous créez votre session de classe. Donc il y a toute une série d'options à choisir. Vous pouvez choisir l'option breakdown et en fait ça permet de créer des sous-groupes et le prof peut passer de groupe en groupe.
Ouais, c'est énorme ça.
On peut le faire, on peut le faire aussi sur le CNED. J'ai oublié de le préciser. Je l'ai pas testé.
C'est dans la version gratuite aussi. Hein, ouais. Donc la version gratuite vous permet d'enregistrer en local le cours que vous êtes en train de faire pour le remettre après sur votre NT. Ça vous permet de créer des sous-groupes. Ça vous permet de partager votre écran, ça permet de donner la possibilité d'annoter aux apprenants. La limite pour l'instant c'est 100 personnes et 40 minutes, mais je sais que un peu partout en Europe ils commencent à lever cette restriction des 40 minutes, et moi j'ai une collègue qui l'a utilisé aussi en version gratuite puisqu'on est dans le processus d'achat de licence, pour l'instant on n'en a pas, et elle a dépassé les 40 minutes sans aucun problème. Alors je sais pas comment ça se fait, peut-être que sa tête lui leur revenait, je sais pas, mais en tout cas c'est assez efficace, le son est de très bonne qualité, l'image aussi meilleure que Teams, et pourtant on a un compte, tu vois, au fixe de 365 et avait une meilleure qualité d'image, quoi.
J'en avais jamais entendu parler avant ce matin, mais depuis ce matin, j'en entends parler tout le temps. Si tu veux savoir, il y a plein qui me demandent, ils veulent l'utiliser, plein. Ouais, donc
quoi, de Zoom ?
De Zoom, ouais, tout à fait.
Évidemment, intelligemment, ils n'ont pas fait trop de pubs, genre, allez, on lève
mais là,
tout,
des collègues, des chefs d'établissement m'ont contacté. Zoom, est-ce qu'on peut l'utiliser ? Est-ce qu'on peut l'utiliser ? Je ne le connaissais pas, donc tu vois.
Et ouais. Ouais, non, mais sans problème. Nous, c'était testé, approuvé par mes collègues, et même encore une collègue qui me contactait tout à l'heure, parce que là, en ce moment, je suis un peu le référent de mon équipe de français, et qui me disait, bon, écoute, j'ai lancé mon premier cours, tout s'est bien passé, pourtant tu sais que j'aime pas ce genre d'outils, donc elle a réussi à prendre le truc en main. Génial. En général, ce qu'ils font, c'est au départ c'est une première session, et après la deuxième ils se disent, bon allez, je vais essayer les sous-groupes, et puis mais tout se passe sans problème jusque là je vous recommande de jeter un coup d'œil, ça a pas l'air très compliqué.
Et comment les gamins, enfin les étudiants se connectent par un lien, pareil ?
Pareil, ouais, un lien que tu envoies et boum, ils arrivent et ils ont l'option de regarder, enfin tu vois, d'installer ce petit truc Zoom comme ça là. Ça se fait très très vite. Et puis il y a une
Je vais essayer ça plutôt que la classe machin. Si c'est gratos, c'est qu'on peut se connecter à au moins 40. J'en aurai largement.
40 minutes. Ouais.
40 minutes, pardon. Et il n'y a pas de nombre minimum d'apprenants dans la version gratuite.
100.
Oui, d'accord, donc ça va aller.
T'écoutes rien, en fait. Hein.
Si, non, mais je dis en même temps.
Non, mais pourquoi pas, enfin, je veux dire, tu peux aussi te dire, dans ce cas-là, bah, écoutez, moi, j'ai trois classes de troisième, je les réunis toutes en même temps.
Ah oui.
Bah, moi, si je fais ça, ils seront sept, c'est bien.
Tu vas voir qu'ils vont kiffer, les élèves, juste sur les classes virtuelles.
Ça marche sur portable aussi. Hein.
Ouais. Et ouais, et bah, je vais essayer, ça, c'est pas mal, dis donc. Je vais essayer ça. Zoom. Allez, nickel. Petite réflexion à part, c'est rigolo parce que l'autre jour, un collègue a fait une aparté qui était un peu cinglante, mais assez réelle, en disant qu'on était peut-être en faisant ça, on était peut-être en train de nous pousser par-dessus la falaise parce qu'on allait arriver à prouver que finalement, ça avait plein d'avantages, que ça marchait, et on allait nous enlever encore des postes de cours de vraies personnes pour... mettre des cours virtuels.
Alors on va pas s'emballer, ça marche là le temps que ça marche.
Ouais, voilà.
Moi j'ai eu les mêmes remarques hein, de collègues comme ça. Je pense que aucun élève, aucun prof ne se voit faire ça 10 semaines, quoi. Et,
tout à fait.
Donc
c'est sûr et certain. Enfin, moi je suis convaincu, mais ouais.
Oui,
et petit truc aussi, puisqu'on en est, un peu aux apartés, j'ai oublié le Flipgrid.
Ben oui, je savais pas le placer parce que je sais pas ce que c'était.
Ben ouais. Alors Flipgrid, c'est un logiciel super. Il est passé gratuit pour tous les profs. Et ça a été racheté par Microsoft et c'est devenu gratuit. Vous pouvez faire vos vidéos. Donc tu lances ta consigne, par exemple je te dis bah tiens Jeff, présente-toi en anglais. Et puis tous les élèves, ils ont un petit bouton plus sur lequel ils appuient, et puis avec leur smartphone ils s'enregistrent, ils font leur petite présentation, ils peuvent se commenter, s'évaluer les uns les autres. Il y a des petits critères d'évaluation, des petites grilles d'évaluation pour des courtes vidéos en langues étrangères. Je crois qu'il n'y a pas mieux.
Donc attends, j'ai pas compris. Donc tu balances une vidéo et par-dessus la vidéo ils ont un petit plus où ils s'enregistrent.
Ouais, ce qu'il y a, c'est que tu crées une activité qui est par exemple se présenter en espagnol.
Ouais.
D'accord. toi, tu vas faire ta première vidéo pour lancer un peu le truc, pour faire un peu l'exemple de la consigne. Donc, okay, tu te présentes, ouais. Meliamo, machin, tu vois. Et puis après, les autres vont avoir ce petit bouton plus sur lequel eux, ils pourront se présenter aussi. Donc, ils vont tous le faire. Et puis, tu peux réagir aux vidéos des autres de la classe.
D'accord.
Et si tu veux pousser un peu le truc, tu peux même établir tes propres critères, prononciation, est-ce que tu as respecté toutes les consignes, etc. Et puis, ça te fait un petit outil d'évaluation comme ça en vidéo, sans faire le truc, tu vois, de ton cours en vidéo, mais c'est plus pour des activités.
Ouais, un peu fun. Parler, rapidement, d'accord. Ok. Mais les élèves se connectent avec un compte ou pas de compte ?
Non. Ils sont pas obligés de se créer un compte, mais dans ce cas-là, toi, tu les enregistres comme élèves. Ils rentrent leur prénom. Alors moi, c'est ce que je faisais. Je leur disais, vous rentrez votre prénom, et puis tu leur donnais le code pour se connecter à l'activité, mais ils n'ont pas besoin de se créer un compte. C'est éducation proofed. Donc il y a pas de fuite de données, de machin comme ça. C'est vraiment purement un outil purement éducatif. Vous n'avez pas trop de crainte à avoir, quoi.
Ça a l'air très sympa. Ok.
C'est vachement bien.
Tu m'as convaincu.
Ben ouais, non mais tu vois, toi par exemple, tu vois sur leur projet, ce serait super. Ils font leur pont en spaghetti et ils te le présentent comme ça, tu vois, ils t'expliquent. Non mais je dis ça parce que tu l'avais fait, tu vois.
Ils le feront. Putain, je vais le faire à distance pour mon prêt. Ça va être bon, ça.
Mais ouais, mais franchement, mais
ils sont tous à lâcher des pâtes toute la journée.
Les pâtes, ça va peut-être devenir précieux, hein, vu l'état des rayons des supermarchés.
C'est ça.
Alors, tu vas voir les trucs là, ton connard de prof qui veut faire des ponts pour aller bouffer nous les pâtes.
Bon, allez, place de plaisanterie. Bon, mais en tout cas, j'espère que cette émission un peu prise en urgence vous a plu. Hein. On finit là-dessus, les gars ?
On va finir là-dessus.
Voilà, en tout cas, j'espère que ça ne va pas trop durer longtemps, en tout cas, cette situation. Mais en tout cas, on a essayé de vous donner en tout cas quelques billes, quelques tips un petit peu de comment faire des choses à distance. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire des petits retours si ça vous a plu ou pas, hein, cette émission. Vous avez plusieurs créneaux, en tout cas, pour nous dire.
Vas-y. Deux petits coups de cœur qui sont en lien avec l'émission.
Allez, vas-y, je t'en prie.
Alors, mon écrivain de SF préféré, c'est sans doute Asimov. Mmh. Et je recommande de lire les cavernes d'acier face au feu du soleil. C'est le cycle Elijah Bailey où justement sur une planète, les gens peuvent plus être en contact les uns avec les, enfin ne veulent pas être en contact les uns avec les autres. Donc je pense que c'est un bon moment pour le lire. Il n'y a pas de virus et tout ça. Mmh. Et puis un deuxième truc, donc il y a Guillaume qui joue de la guitare, moi je joue de la basse et j'ai décidé de m'y remettre sérieusement et je me suis inscrit sur Scott's Bass Lessons, qui est un enseignant anglais qui fait que des cours en ligne et il fait ça bien. Si vous pouvez aller voir ce qu'il fait, alors c'est un super musicien, hein, mais ses cours, les cours qu'il propose et tout, il est conscient que c'est en ligne, mais du coup c'est vachement prévu pour ça et on voit la différence. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude et qui d'un coup comme nous, eh ben, on dit merde, on était face à face. Et je passe en ligne. Là, il a prévu pour ça et c'est fait de manière super intelligente. Donc Scott Bass Lesson, vous pouvez essayer gratuitement pendant 14 jours. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui veulent jouer de la basse. Hein. Mais
moi, je suis bassiste en fait. Je suis vraiment bassiste, beaucoup plus. Bah, j'ai gratouillé comme tout le monde, mais je veux dire, c'est surtout vraiment la basse mon instrument, on va dire. En tout cas, celui avec lequel je joue le plus avec mon groupe. Enfin, je joue pas trop avec mon groupe en ce moment. Et c'est vraiment super bien ce site. Ça fait longtemps que je le suis. C'est un super bassiste et il fait ça très très bien. Quoi. Vraiment à suivre.
Et c'est pas un musicien. Je veux dire, naturellement, il est pas doué pour ça. Quoi. C'est vraiment du boulot.
Ouais, parce que parallèlement à ça, il y a plein de masterclass. Là, YouTube a lancé en partenariat avec je sais plus qui, plein de masterclass de tueurs de la musique dans plein plein de domaines. Alors en guitare, il y a Tom Morello qui fait un truc. Dans les producteurs, moi je fais un peu de son aussi, donc je regarde des trucs de producteurs. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que Tom Morello, sa masterclass, elle est bien, mais comme souvent dans les masterclass, les mecs, tu comprends pas. En fait, c'est une conf quoi, et tu dis oui, mais en fait, attends, ça m'intéresse pas, bah, reviens. Enfin, tu vois, c'est pas lui, il fait pas ça quoi. Il est vraiment il a capté le truc quoi. C'est bien.
Ouais. Et il avait fait ce super projet de soutenir des projets de construction d'écoles en début d'année. Donc, voilà. Désolé.
Ah non, c'est bien, ça va bien. T'as trouvé des choses.
C'est bien plus intéressant que toutes les conneries qu'on a dit.
Qu'on a dit, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et ça, tu me rajouteras ça dans les notes de l'émission. Hein.
Tout à fait.
Voilà. Bon, ok, vous voulez rajouter quelque chose, vous, les...
Ouais.
Guillaume Seb, vas-y.
Et que dans les trucs là, voilà, moi avec mes gamins à la maison aussi, des petits, on est fan d'Aldebert. Je pense que je présente Aldebert ici. Donc voilà, et en fait, on a acheté le DVD. J'ai acheté un DVD, vous vous rendez compte, en 2020, du concert d'Aldebert au Zénith, qui est assez vieux, hein, pour les 10 ans de sa carrière et de son dernier album. Et en fait, c'est vraiment génial pour les enfants. Donc, si vous avez des enfants qui connaissent déjà un petit peu Aldebert, essayez de trouver le DVD, de le commander ou de le trouver sur le net, j'en sais rien. Parce que c'est un vrai spectacle. Et quand on est confiné et qu'on veut associer musique, regarder des musiciens, en plus venir tout un tas de types de musiciens, la poésie, ses belles paroles et tout ça, ben c'est un spectacle qui est super complet, qui est vraiment très très bien. Voilà, Enfantillage 3, la tournée des 10 ans. Voilà.
Très bien, on n'avait pas prévu de pouvoir parler d'autres choses, mais c'est bien. Est-ce que Sébastien, tu as quelque chose à rajouter?
Bon, on va faire simple. Vous avez Netflix, vous avez des enfants, tous les Ghibli sont sur Netflix.
C'est bien.
Alors, il paraît que Canal Plus est en
oui, c'est ce que j'ai entendu. Ouais.
Clair,
en clair.
Depuis
aujourd'hui,
les mesures anti-coronavirus.
Ouais. Pas mal de services se sont ouverts. Hein, je sais pas, il y a pas mal de manuels numériques qui ont été donnés aussi, tu vois.
Tout à fait.
En libre, et il y a Arte. J'ai vu Arte aussi, Arte.tv, tout leur système éducation, et tout est ouvert aussi. Donc pas mal de
Arte,
choses.
Ça a intéressé nos élèves, je pense. Ils vont passer de 10 élèves qui ont.
Non, mais là, c'est plus. Je pense que c'est plus du côté enseignant, là. Parce que c'est Arte éducation.
Ah bon, d'accord.
Donc on peut utiliser. Mais il y a pas mal de services qui se mettent comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas, à nous faire des retours sur cette émission-là. Vous avez tous les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, etc. Vous pouvez nous laisser des petits commentaires. En tout cas, si vous voulez continuer à nous suivre, ben n'hésitez pas. C'est normalement c'était tous les 15 jours sur eTeachers.fr. On essaiera de faire le 100 normalement la prochaine fois, on espère. Voilà. Et si vous pensez que on mérite quelques petits euros pour nous aider, en tout cas à continuer à développer l'émission, c'est sur Tipeee. Tipee. Et vous trouverez les teachers et vous pouvez laisser en tout cas un petit euro, un petit moins cher qu'un café, en tout cas par mois. Donc vous pouvez y aller. Voilà. Voilà les gars. Merci
très
pour
bien,
ce
bien.
Numéro en urgence.
Désolé hein pour le beans du départ, pour ceux qui ont essayé d'écouter tout ça, mais voilà. C'était un petit peu compliqué ce soir. Merci à Hugo qui nous a aidés, hein, Hugo étant le fils de Jeff qui finalement a trouvé la solution.
C'est ça. Merci à lui, voilà. En tout cas. Allez, ciao, au revoir tout le monde.
Bonne nuit.
Et bon courage à tous.
Ciao. Salut.